Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas du tout influencé par le nombre. Tu peux agir dans un petit nombre comme dans un grand.
Amen.
Nous t'avons vu faire, Seigneur, tant de fois.
Merci.
Et nous savons que tu es présent au milieu de nous.
Amen.
Parce que tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le Seigneur est là et il vous dit, je suis là,
Amen.
Au milieu de vous. Ne vous attendez pas à entendre des paroles d'hommes. Attendez-vous à entendre la voix du Seigneur.
Amen.
Parce qu'il est là. Alléluia,
oh,
Seigneur.
Oui,
nous te louons, Seigneur, nous t'adorons.
Gloire à ton nom.
Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui tient tout l'univers dans ta main et qui tient notre petite vie dans ta main aussi. Oh, Seigneur, nous sommes tellement minuscules. Nous sommes tellement petits, il est vrai. Mais tu nous as élevés. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres dans ton admirable lumière. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, nous, graciés, rachetés par le sang de l'agneau. Oh, merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es là et c'est tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Merci Seigneur de bénir tout ce qui va être dit et tout ce qui va être fait ici, en ton nom. Et nous te louons, nous t'élevons, nous élevons ton nom, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms et devant lequel un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre aussi. Alléluia, merci Seigneur. Tu es le grand Dieu victorieux qui a remporté la victoire une fois pour toutes à Golgotha. Merci Seigneur. Et nous voulons nous souvenir d'où tu nous as tirés, Seigneur. De la boue du péché, pour nous amener dans ton admirable lumière. Louange, puissance et gloire à l'agneau de Dieu, immolé pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, m'a rappelé le moment précis. J'avais 27 ans où le Seigneur m'a donné un sursis de vie. J'étais, disons, condamnée à mourir. C'était un fait. Nous étions missionnaires en Afrique. J'avais 27 ans à l'époque. Deux petits-enfants. Et je souffrais d'hépatite virale. Et j'avais une crise de malaria aiguë, à la fois. J'étais mourante, là. Je sentais la mort venir. Ça faisait 10 jours que je n'avais pas mangé, 3 jours que je ne pouvais plus boire, même pas l'eau. L'eau ressortait avec la bile, avec tout ce que j'avais en moi. Je vomissais, et je me vidais littéralement, et nous étions en Afrique sous un soleil torride, du Tchad, avec un toit en tôle, le soleil qui frappait dessus, et une toute petite maison en terre, avec la terre par terre. Et j'étais couchée sur un lit de camp. Et j'étais en train de mourir. Je sentais la mort venir. J'en étais presque sûre. Seulement, le Seigneur était là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je sais que le temps que je vis, c'est un sursis. Combien de temps il m'accordera encore, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a accordé un sursis. Et j'étais tellement dans un état terrible, j'étais comme une loque humaine, dans un état de faiblesse extrême. Et déjà, je sentais mauvais, déjà les mouches commençaient à me couvrir. Quand on m'a transportée dans un dernier effort pour me sauver, on m'a transportée dans une petite ville du Tchad qui s'appelle Sar aujourd'hui. Et tous les missionnaires se sont réunis pour prier pour moi parce qu'ils savaient que c'était très urgent. Alors les missionnaires étaient réunis dans une pièce voisine, disons une cuisine, et moi j'étais dans la pièce à côté, en train de mourir, en train de sentir la mort venir, mais à grands pas. Et je ne peux pas vous dire l'effet que ça fait quand la mort vient, mais je sais que quand on se trouve au bord de la tombe, on en arrive à un degré de faiblesse tellement grand qu'on ne peut même plus prier, lire, louer le Seigneur. Vous êtes là, attendant le secours de Dieu. Et vous dépendez aussi de la prière des autres à ce moment-là. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a suscité tous ces missionnaires qui se sont rassemblés pour prier pour moi. C'était aussi son plan, sa direction avec Samuel. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler comme si vous me parliez. Sauf que ce n'était pas audible, mais pour moi, c'était pareil. Ça n'a pas fait la différence. Et il m'a dit, « Je vais te guérir. » À ce moment-là, j'ai dit, « Oui, Seigneur, alors donne-moi juste un peu de force pour croire. » Parce que je n'avais même plus la force de croire. Tellement je t'ai fait. Alors le Seigneur m'a donné juste ce que j'avais demandé. Un petit peu de force pour croire. Il nous donne ce que nous demandons. Il nous prend au mot, là. Et puis à ce moment-là, je me suis laissée glisser en bas de mon lit de camp, là. C'était pas bien haut, alors j'étais vite par terre, parce que je pouvais plus marcher. Et puis, je me suis traînée jusque dans la pièce voisine où les missionnaires étaient rassemblés pour prier pour moi. Et je leur ai dit, en arrivant, en rampant, là, je leur ai dit, priez pour moi, le Seigneur Jésus va me guérir. Faites-moi l'onction d'huile selon Jacques 5, les Écritures. Et au moment où ils ont mis de l'huile sur mon front et ils m'ont imposé les mains, tous ensemble, la puissance de Dieu est descendue sur moi comme un courant de 10 000 volts. Je vous dis que je connais la puissance de Dieu. Parce que je l'ai expérimenté dans mon propre corps, qui a vibré de la puissance de Dieu, sans faire aucun mal. Mais ça fait juste un peu comme quand vous avez les fourmis. Vous savez, vous avez un peu mis le bras toujours là, dans la même position, vous avez comme un fourmillement dans le bras, à cause d'une mauvaise position. Ça faisait ça, mais dans tout l'organisme. Et au moment où la puissance de Dieu m'a touchée, je me suis levée. Je ne pouvais pas me tenir debout, hein. Je rampais avant. Et j'ai dit, Jésus m'a guéri, je suis guéri. J'étais encore jaune comme un citron, à cause de l'hépatite virale. Pas mangé, pas bu depuis 3 jours. Mais j'étais guéri. Jésus m'avait touché. Jésus m'avait touché.
Merci Seigneur.
Et je peux vous dire que ça a été définitif comme attouchement, ça a été parfait. J'avais pas mangé depuis 10 jours, rappelez-vous. Le lendemain matin, je prenais un petit déjeuner complet, café au lait s'il vous plaît, pour le foie, beurre, confiture, tout. J'avais pas mangé depuis 10 jours, tout est resté. Et je me suis fortifiée et j'ai été guérie et je n'ai plus jamais eu des problèmes de foie. Alléluia! Gloire au Seigneur de la vie! Gloire au Seigneur de la vie! Et maintenant, j'aimerais parler de quelqu'un ici qui a aussi eu un sursis et qui est là et qui a été guéri par le Seigneur. Il y a 2 ans, je crois, c'est ça? Ça fait 2 ans. C'est Gérald. Si tu veux te lever à ta place... Alléluia. Lui aussi, c'est un miraculé. Lui aussi, c'est un gracieux. Lui aussi, il a reçu un sursis du Seigneur. Et tu peux t'asseoir. Je vais raconter comment ça s'est passé. Nous étions dans une église à Sainte-Agathe, il y a 2 ans. Et comme le Seigneur me donne des paroles de connaissance un peu partout où nous allons et qu'il confirme ces paroles par des guérisons pas mal spectaculaires, un peu comme la mienne, parfois, des gens mourants qui se relèvent de leur lit de mort ou alors condamnés par la médecine. Et c'est quand même merveilleux de voir ce que le Seigneur a fait dans notre frère Gérald. Donc, nous étions en réunion à Sainte-Agathe, dans une église, et parmi les paroles de connaissance que le Seigneur m'a données, il m'a dit, il y a quelqu'un ici qui est gravement atteint des intestins, il va à selle 8 à 10 fois par jour, et même plus, accompagné de perte de sang et de gonflement des intestins. Nicole était là, sa femme, mais Gérald n'était pas là ce soir-là. Et c'est ça a été merveilleux parce que c'était un peu un double miracle, là, de la façon dont le Seigneur a aussi répondu à la prière de Nicole. Nicole était là, sa femme. Lui n'était pas là, il était à la maison. Et après la réunion, j'ai dit, quelqu'un est gravement atteint des intestins, le Seigneur le guérit maintenant. Et avec tous ces symptômes. Et puis à la fin de la réunion, Nicole vient me voir. Elle me dit, ça c'est mon mari. Et elle l'a pris pour lui, à sa place. C'est beau ça, hein? Ça veut dire que les circonstances ne sont pas importantes. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. On a vu ça plusieurs fois. C'est pas important, mais quelqu'un doit saisir la guérison que le Seigneur me donne de dire par la foi. Même si la personne n'est pas toujours là. Et ça peut se passer, on l'a vu à plusieurs reprises, quand même, même si la personne n'est pas là. Mais enfin, je reviens à mon témoignage. Nicole a dit, ça c'est mon mari, je le prends pour lui. Mais elle est rentrée à la maison en disant au Seigneur, Seigneur, j'ai pris cette parole pour mon mari Gérald, mais lui il n'a pas entendu, Seigneur, tu pourrais faire que demain soir Gérald vienne à la réunion, s'il te plaît. Et qu'il entende lui-même cette parole. Seulement, le problème, c'est qu'elle a aussi dû ajouter, « Alors, Seigneur, dis à la sœur Dorothée de redire la même guérison demain soir, à la réunion. » C'était ça, l'histoire. Je me rappelle très bien de ça. Parce que c'était frappant, et le Seigneur a entendu cette prière de Nicole qui est montée vers le Seigneur pour son mari. Le lendemain, son mari était à la réunion. Et il faut vite que j'ajoute ce qui s'est passé entre deux. C'est que Gérald avait un ventre qui gonflait tous les soirs, m'aviez-vous dit à cette époque. Tous les soirs, il était gros, gros comme s'il avait presque un bébé dedans. Hein? Gros, gros. Ça enflait, ça faisait mal, c'était terrible. Et sa situation était grave, il devait donc être opéré. Et il supposait une maladie grave, que je ne dirais pas. Maintenant, il devait couper une partie des intestins, il devait... Enfin, sa situation était grave. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Nicole et Gérald reviennent à la réunion. Gérald est là cette fois. Seulement, moi, le Seigneur dans ma chambre m'a parlé quand je me préparais pour la réunion. Il m'a dit, ce soir, tu rediras la même chose. Et je vous dis que quand j'ai dit une parole de connaissance, c'est une fois en général, c'est rare que je la répète. Il faut une indication spéciale du Seigneur pour la redire une deuxième fois. Et là, le Seigneur m'a parlé dans la chambre. Redis cette parole-là encore une fois. Parce que Nicole avait prié. C'était l'exaucement de sa prière. Alléluia. Et sans que je le sache, c'est ça. Alors le lendemain, Gérald était là. Il a entendu la parole qui a été redite. Et cette fois, il l'a prise lui-même pour lui. Et il a été touché encore plus par le Seigneur. Mais il avait déjà été touché la veille le Seigneur avait commencé à le toucher quand sa femme avait pris cette guérison pour son mari. Parce que le soir même, à la maison, il avait dit que son ventre était plat, il ne s'était pas gonflé ce soir-là. Donc déjà, un symptôme. Ensuite, donc il a été touché par le Seigneur. Et ensuite, les médecins ont décidé qu'ils voulaient ouvrir quand même. Et ils ont ouvert. Elle n'y avait pas de cancer. Et ils n'ont même pas coupé rien du tout. Ils ont refermé en faisant juste une petite amélioration dans son système. Et le Seigneur est glorifié. Le Seigneur est glorifié. C'est lui qui s'est glorifié dans la vie de Gérald et de Nicole. Qu'il a touché et il a donné à Gérald un autre sursis. Parce qu'il a un plan pour toi, Gérald. Tu le sais. Et tu vas continuer d'aller de l'avant. Et Nicole aussi. Merci, Seigneur. On peut applaudir le Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, je voudrais encore rendre un autre petit témoignage qui s'est passé cette fois dans la Beauce, parce que ça fait plusieurs années que nous circulons par là. C'était une autre année qui est aussi très parlant comme témoignage. Il y avait une réunion avec le ministère des Dames, et donc j'enseignais les Dames de Saint-Honoré de Beauce, là-bas. Et à la fin, j'ai donné des paroles de connaissance. Et dans l'auditoire, il y avait une jeune femme de fermier de la Beauce, d'un fermier de la Beauce. Et cette jeune femme souffrait terriblement des deux genoux. Elle avait un peu, j'estime, au-dessus de la trentaine, mais guère. C'était une très jeune femme, donc c'était plutôt étonnant qu'une jeune femme comme ça ait des problèmes de genoux. À presque plus pouvoir plier le genou, à avoir des douleurs, mais comme une vieille femme, pleine d'arthrose. Et cette jeune femme était assise. Je m'en rappelle bien. Elle était assise. Elle était courbée comme ça. Et elle était en train d'intercéder pour quelqu'un qui avait une maladie grave, une de ses connaissances ou une de sa parenté, je ne me rappelle plus, une personne proche d'elle qu'elle avait à cœur. Elle était en train d'intercéder pour cette autre personne qui était gravement atteinte. Remplie de compassion, elle était en train d'intercéder pour cette femme-là. Elle ne pensait même pas à son mal à elle, elle pensait à l'autre. Voyez, il ne faut pas toujours penser à soi. Et rien qu'à soi, et mes bobos, et mes choses. Le Seigneur pense à nous quand nous pensons aux autres. C'est ça l'histoire. Elle intercédait pour une autre personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une parole de connaissance. Quelqu'un souffre ici des deux genoux, d'atroces douleurs. Le Seigneur la touche. Et au moment où cette parole est donnée, cette femme est instantanément délivrée de tout, de tout. Ces mots, de toutes ces douleurs. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est ça qui est émouvant, qui est merveilleux. Cette femme s'est mise à pleurer. Mais à pleurer, elle a dit, « Seigneur, mais je ne t'avais rien demandé, Seigneur !» Je trouve ça joli. « Je ne t'avais rien demandé, je priais pour un tel. Tu m'as touchée. » Alors, cette grâce-là qu'elle a reçue, l'a merveilleusement touchée. Elle a été touchée parce que le Seigneur pense à elle alors qu'elle, elle pensait aux autres. Et c'est la leçon que le Seigneur veut nous faire à nous ce matin-ci. C'est que quand nous pensons aux autres, le Seigneur pense à nous. Alors Seigneur, j'en termine là pour maintenant. Seigneur, tu es là. Et nous voulons te bénir. Parce que dans tout cela, tu as tellement de leçons à nous apporter. Tu parles au travers de ta parole, mais tu parles aussi au travers de tes œuvres. Et ça, ce sont tes œuvres. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu des cieux et de la terre et que rien ne t'échappe. Que tu as le contrôle de toutes choses et que tu n'arrives jamais en retard et que tu as un but dans tout ce que tu fais, Seigneur. Louange, puissance et gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons maintenant être à l'écoute de ta parole, nous recueillir et nous attendre à ce que tu nous parles au travers de ta parole. Que ton nom soit béni, élevé, glorifié. Nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur. À ton nom soit la gloire et la puissance et le règne. Amen.
Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Tes œuvres sont si merveilleuses que nous ne pouvons que nous courber devant toi.
Amen.
Et te dire merci. Merci de tout notre cœur.
Amen.
Pour ce que tu as fait dans nos vies.
Amen,
Seigneur, c'est vrai, si tu n'avais pas agi, nous ne serions même pas là aujourd'hui.
Oui.
Et peut-être beaucoup d'entre nous aussi.
Oh oui.
Seigneur, ta main bénissante nous a touchés.
Mm-hmm.
Et nous voulons te dire un grand merci ce matin.
Amen.
Seigneur, oui, que ton nom soit béni. Et à ton nom seul soit toute la gloire.
Amen, Seigneur.
Seigneur, car aucun homme ne peut faire cela. Seule ta main, meurtrie pour nous,
merci,
Seigneur, peut accomplir de telles choses.
Merci, Jésus.
Oh, nous t'aimons et nous voulons toujours t'aimer davantage.
Oh oui, Seigneur.
Seigneur, tu es glorieux.
Amen.
Et nos cœurs veulent encore te suivre mieux, te connaître mieux, t'aimer mieux, te ressembler mieux et t'annoncer aussi d'une manière plus efficace. Oh, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Veuille bénir cette courte méditation de ta parole comme tu enseignais tes disciples autrefois, Seigneur. Enseigne-nous aussi maintenant.
Amen.
Tu as certainement une parole pour chacun. Seigneur, pour toi, le nombre ne compte pas, puisque tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
Amen.
Pour glorifier mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tu es là, Seigneur.
Mm-hmm.
Et nous voulons te dire merci.
Amen.
Maître, parle.
Mm-hmm.
Tes serviteurs écoutent.
Amen.
Tes servantes écoutent.
Amen, Seigneur. Amen.
Seigneur, tu peux et tu veux nous parler ce matin.
Mm-hmm.
Cette rencontre n'est pas un hasard.
Mm-hmm.
C'est toi qui l'as voulu, Seigneur.
Amen, Seigneur.
Et tu veux nous toucher, nous rencontrer. Puissions-nous être disponibles et sensibles à ta voix pour écouter ce que tu veux nous dire. Et obéir à ta voix. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est là. Pour lui, le nombre importe peu. Pour les hommes, ça importe. Ah, les hommes sont très influençables par le nombre.
Ah oui.
Il y a beaucoup de monde, ils sont au plafond, ils tiennent plus. Il n'y a pas grand monde, il n'y a plus personne. Leur bouche est fermée.
Oh.
Cela révèle que leur foi est plus dans les circonstances, dans les hommes, que dans le Seigneur. Et là aussi, c'est un test pour notre foi. Si nous aimons vraiment lui, le Seigneur, avant tout et par-dessus tout. Amen.
Amen.
C'est cela qui compte. Est-ce que je chante mieux quand il y a du monde? Ou alors est-ce que je chante tout doucement quand il n'y a pas beaucoup de monde? Oh. Ah bon, tu chantes pour qui alors? J'ai cru que tu chantais pour le Seigneur. Quand il y a du monde, tu chantes bien. Quand il n'y a pas de monde, tu chantes pas bien. Alors pour qui tu chantes? Tu chantes donc pour les autres. Mais tu ne chantes pas pour le Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard.
Oui. Amen.
Il nous teste en toutes circonstances.
Oui, c'est vrai.
Même quand nous ne le voulons pas, il nous teste.
Mm-hmm.
Et l'important, c'est d'être disponible.
Mm-hmm.
Vous n'êtes pas les seuls testés, nous sommes nous aussi testés.
Eh oui. Absolument.
On est tous testés ce matin.
Oui. Oui, Amen.
Mais c'est dans l'épreuve que nous devons faire nos preuves.
Amen. Alléluia. Oui. Amen.
C'est dans l'épreuve qu'on fait ses preuves. Quand tout va bien, vous ne prouvez rien du tout.
Oui.
Mais quand tout va mal, c'est là que se dévoile le caractère de quelqu'un. C'est quand tout va mal, tout est dans l'opposition, c'est là que se révèle notre vrai caractère. N'est-ce pas vrai?
Oui.
Puisse le Seigneur trouver en nous cette bonne disposition, quelles que soient les circonstances, les événements, car si nous sommes ouverts, Dieu peut faire beaucoup là où il y a peu, n'est-ce pas vrai? Et bien souvent, Dieu agit ainsi. C'est avec 5 pains et 2 poissons qu'il a fait les plus grands miracles.
Mm-hmm.
C'est là où les choses sont insignifiantes que Dieu se plaît à se glorifier.
Amen.
S'il trouve en nous des cœurs ouverts, disponibles, c'est très important.
Mm-hmm, c'est vrai.
Bien souvent, notre foi est sentimentale. On vit de sentiments. De sentiments. Le sentiment, souvent. On vit de sentiments. Le sentiment, souvent. Si on vit de sentiments, c'est pas vrai? Si on est trop influencé par nos sentiments, mon juste vivra par la
foi,
foi. Et non par la
vue.
Tout cela, le Seigneur nous le répète, nous le rappelle. Nous en avons constamment besoin, mes chers amis.
Mm-hmm.
Et nous allons voir brièvement l'histoire d'une femme que le Seigneur a tout spécialement approuvée vers la fin de son ministère. Une femme de laquelle Jésus a dit qu'il fallait qu'on raconte son histoire dans le monde entier. Vous vous rendez compte? Dans le monde entier. C'est qu'il y avait en elle des qualités remarquables. Si le Seigneur a loué ces qualités, nous devons les connaître, n'est-ce pas vrai? Et non seulement nous devons les connaître, mais nous devons aussi les avoir en nous. Car c'est ce que le Seigneur recherche. Comment avoir l'approbation de Dieu dans notre vie? C'est le titre de mon message. Comment avoir l'approbation du Seigneur sur sa vie? Comment? Eh bien, cette femme, au travers de cette femme, il y a quelques leçons importantes pour vous et pour moi que nous devons apprendre si nous voulons plaire à notre mère et avoir son approbation. Dans Marc, chapitre 14, lisons quelques versets, les 9 premiers versets. Marc 9, les 9 premiers versets, Marc 14, pardon. Marc 14, les 9 premiers versets. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Nous voyons que la situation est très grave. L'ombre de la croix planait déjà sur le sentier de Jésus. Les complots étaient déjà là autour de sa vie. Le chemin devenait de plus en plus sombre. La trahison était là dans l'air. La multitude déjà l'avait abandonné. Mais au sein de ces ténèbres, il y a comme un rayon lumineux qui vient réchauffer le cœur de notre Maître. Et c'est cette petite femme, de rien du tout, qui va nous montrer quelque chose de merveilleux, qui a profondément réjoui le cœur du maître. Et on continue au verset 3. Marie de Béthanie, oint Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu, brisé le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action. Et on pourrait traduire, elle a fait une action admirable. Le texte grec veut dire cela. Elle a fait une action admirable qui mérite l'approbation. Elle a fait quelque chose de particulier. Vous ne le voyez pas du tout. Au contraire, vous avez même à critiquer son action. Mais à mes yeux, il s'est passé quelque chose que vous les hommes, vous ne voyez pas. Une action mémorable. Une action admirable. Une action merveilleuse. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait cela, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on le dit, cela? Il n'y a pas beaucoup de prédications là-dessus. Et pourtant, le Seigneur nous dit que le monde entier doit entendre et réentendre cela. Car elle a fait une action mémorable, une action admirable à mon égard. Les autres ont pensé que, en brisant ce vase, elle avait perdu de l'argent. Mais Jésus voyait les choses différemment. Ce qui est un gain pour les hommes peut être une perte aux yeux de Dieu. Nous devons voir les choses comment Dieu les voit et non pas comment les autres le voient, n'est-ce pas vrai? Et alors, quelles sont ses qualités? J'en ai noté quelques-unes ici. Quelques-unes très précieuses. Pourquoi a-t-elle touché le cœur du Seigneur? Parce que d'abord, elle avait un esprit de reconnaissance.
Amen.
Dans Jean, chapitre 12, nous voyons un récit extraordinaire. C'est que Marie avait un frère qui s'appelait comment? Lazare. Et Jésus avait ressuscité Lazare. Et cela, il ne faut pas qu'on l'oublie. Jean 12, les premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit d'un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand Saint-Esprit oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, là on ne nous dit pas que c'est lui, fils de Simon, celui qui devait le livrer. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, vous voyez, là, l'histoire est répétée différemment. C'était Judas qui était là, qui jouait un peu à l'humanitaire, comme si d'un seul coup il avait de la compassion. On aurait pu donner cet argent aux pauvres, leur faire du bien. Mais en fait, il ne pensait qu'à lui-même. Il ne même pensait même pas aux autres. Parce qu'il est dit que de temps en temps, il prenait dans la caisse. Première qualité de cette femme, avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, cette femme avait un esprit de reconnaissance. Elle s'est rappelée que Jésus avait ressuscité son frère, Lazare. Elle voulait exprimer sa reconnaissance. C'est là une vérité capitale. Si nous voulons plaire au Seigneur, si nous voulons lui être agréables, il nous faut, mes amis, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Bien souvent, nous oublions ce que le Seigneur a fait. Et nous passons notre temps à rouspéter. Nous passons notre temps à pleurnicher et à dire « Oh Dieu, oh ceci, oh cela ». Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on vient constamment dans la présence de Dieu pour quémander, pour mendier. Et Dieu nous dit que ce n'est pas comme cela que l'on doit s'approcher de lui. Ce n'est pas comme cela. On doit d'abord venir, non pas pour nous-mêmes, et non pas pour les autres. On doit d'abord venir pour le Seigneur. Quand nous venons dans sa présence, ou dans notre vie, en privé, ou à l'église, c'est d'abord lui qui doit être servi le premier.
Amen.
Car c'est dans la mesure où nous l'avons vraiment glorifié, nous avons été reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait, qu'il pourra nous accorder d'autres bénédictions. Et même il les accorde sans que nous les lui demandons, comme l'expérience de cette dame. Et il y a tant de choses comme cela. Nous le voyons même dans les Actes des apôtres. Quand les Actes 4, quand les disciples et les apôtres étaient persécutés, ils prièrent et dirent « Seigneur, aide-nous ». Et la parole de Dieu dit qu'ils furent de nouveau, ils furent remplis du Saint-Esprit. Pourtant, dans Actes 2, ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit. Mais dans Actes 4, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils n'avaient rien demandé. Ils avaient seulement demandé, « Seigneur, étends ta main afin que ta parole soit confirmée. » Mais ils n'avaient rien demandé pour eux-mêmes. Ils ne pensaient qu'à la gloire de Dieu. Et c'est en cela, mes amis, que bien souvent, nous faisons des erreurs. Nous venons le cœur chargé en ne pensant qu'à nous-mêmes. Ou en pensant aux autres, et nous oublions tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Le psalmiste disait, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume 103, je crois. Mon âme, bénis l'Éternel. Voyez-vous, le psalmiste, il se prêchait à lui-même. Il faut vous prêcher à vous-même de temps en temps.
Oui.
Il y en a qui sont forts pour prêcher aux autres, mais ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Moi-même, bénis l'Éternel, même quand on n'en a pas envie. Bien souvent, quand on commence à louer le Seigneur, on n'en a pas envie. On a de la peine. On a un peu comme les vieilles voitures dans le temps. Elles avaient de la peine à démarrer. Mais après, elles avaient de la peine à s'arrêter, ces voitures. Une fois que c'était parti, la voiture ne pouvait plus s'arrêter. On a de la peine. Et là où on a beaucoup de peine, c'est de dire merci pour ce que le Seigneur a déjà fait.
Oui.
As-tu remercié pour les nombreuses bénédictions que tu as déjà reçues? Au lieu de venir tout le temps, bénis-moi, bénis-moi, je viens ici pour être béni. On est là comme des mendiants, continuellement. On vient pour mendier. On mendie continuellement. On ne pense qu'à soi. Finalement, on ne sert pas Dieu. On se sert de Dieu pour nous-mêmes. Le centre de notre vie n'a pas changé. C'est toujours nous qui sommes au centre. Et Dieu est là pour nous bénir. Et s'il ne nous bénit pas, on se fâche encore. On se fâche même. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je t'ai demandé cela. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? On se fâche même contre le Seigneur. C'est contre toi qu'il faut te fâcher. Ce n'est pas contre le Seigneur. Lui, il fait tout à merveille. Comme les évangiles nous disent, il fait tout à merveille. Nous n'avons rien à lui reprocher. As-tu un cœur reconnaissant? Ton cœur est-il chargé, est-il lourd? Peut-être as-tu oublié les nombreux bienfaits qu'il t'a accordés. Peut-être que si le Seigneur n'avait pas agi dans ta vie, tu ne serais même pas là ce matin. Es-tu reconnaissant? Et il y avait cette reconnaissance dans le cœur de Marie. Son frère était ressuscité. Voilà des choses auquel le Seigneur attache beaucoup d'importance. Nous, on est obsédés par nos problèmes, notre situation. On est obsédés, voyez, on tourne encore autour de nous. Mais le Seigneur te dit ce matin, détourne les regards de toi-même. Dis merci pour ce que j'ai déjà fait dans ta vie. Dis-lui merci, sois reconnaissant. Comment veux-tu que Dieu te donne encore si tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il a fait? Pourquoi veux-tu qu'il te donne encore si c'est pour être encore ingrat? Si c'est pour ne pas apprécier ce qu'il te donne? Merci Seigneur, on est un peu comme les enfants. Maman, papa, ils veulent tel jouet. Vous vous souvenez aux environs de Noël? Ils veulent tel jouet. Vous achetez ce jouet. Ils le regardent juste 5 minutes. Bon, après c'est terminé, c'est fini. Terminé. On est un peu comme cela. On demande, Dieu nous dit, on reçoit, et après c'est fini. Et on est là, constamment, en train de demander encore autre chose. Le chrétien qui sait rendre grâce, c'est un chrétien spirituel. Chrétien qui ne sait pas rendre grâce, c'est un chrétien charnel encore. C'est ça la grosse différence. Le chrétien charnel dit toujours « encore ». Il n'en a jamais assez. Le chrétien spirituel dit « merci ». Il se merciait constamment dans sa bouche. Alléluia. On peut le voir tout de suite, un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Certains, quand ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour gémir. Oh, 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 oh! Et ça n'en finit plus. Si vous leur avez demandé comment ça va, après vous le regrettez, parce qu'il y en a pour une heure au moins. Une heure! Vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Jamais j'aurais dû dire comment ça va. Oh oui, vous avez que... Oh, mais vous avez... Oh là là! On aurait dû se taire. Tandis que d'autres, comment ça va? Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est un rafraîchissement. Et ça a été un rafraîchissement pour le Seigneur. Mm-hmm. Pour le Seigneur. Et l'homme, le chrétien surtout, est oublieux. Nous oublions tout ce que Dieu fait dans notre vie. Mmh. Et ce matin, il te demande une chose, de te rappeler tout ce qu'il a fait. Passe en revue, mon âme bénit l'Éternel et quoi ? Et n'oublie aucun de ses bienfaits, voyez-vous ? Aucun en plus. Aucun. Nous devons tous les passer en revue. Prenons le temps pour cela. Et si nous le faisons, il y aura tant de merci que notre cœur débordera de reconnaissance et d'amour pour le Seigneur. Amen. Êtes-vous un chrétien reconnaissant? Êtes-vous un chrétien merci ou un chrétien encore? Mm-hmm. Chaque fois qu'ils viennent, mendiant. Soyons les chrétiens merci. C'est ce qui a réjoui le cœur du Seigneur. Et c'est ce qui réjouira aussi le cœur du Seigneur dans ta vie. Sois reconnaissant. Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si toi tu ne l'abandonnes pas, il ne t'abandonnera jamais. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Alléluia. Il prendra soin de toi jusqu'à ta blanche vieillesse. Il n'a jamais délaissé personne. Soyons reconnaissants. Soyons plus reconnaissants. Cessons de trop tourner autour de nous-mêmes pour ne penser qu'à nous. Et vous savez, un chrétien qui ne pense qu'à lui, c'est un chrétien égoïste. Et vous ne pouvez jamais satisfaire un chrétien égoïste. Jamais. Vous lui en donnez, la première chose qu'il dit, encore. Vous lui en donnez, encore. Il n'est jamais satisfait. Si nous vivons comme cela, il y aura toujours en nous une profonde insatisfaction. Mais si nous sommes ces chrétiens, merci. Au contraire, il y aura une plénitude de joie, de reconnaissance, de satisfaction au plus profond de nous-mêmes. Alléluia. Profondément satisfait, sachant que le Seigneur prend soin de nous. Amen.
Amen.
C'est ça, c'est la première qualité. Et celle-là est importante lorsque nous venons dans sa présence. Et personne ne peut dire ici qu'il n'a rien pour rendre grâce au Seigneur. Alors là, vous dites des mensonges. Et bien souvent, nous disons, oh, Seigneur, moi, j'ai rien. Comment t'as rien? Réfléchis un petit peu.
Oui, c'est ça.
Réfléchis un petit peu. Prends le temps de réfléchir. Au lieu de dire des bêtises. Comme Pierre sur la montagne de la transfiguration, il ne savait plus ce qu'il disait. Ah, Seigneur, une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour... Il ne savait plus ce qu'il disait. Il était perdu. Et d'un seul coup, un nuage est venu. Et il ne vit que... Prenons le temps d'être reconnaissant. Prenons le temps. C'est important. Surtout dans ces temps de la fin où les revendications sont permanentes, n'est-ce pas vrai?
Oui.
Pas seulement ici, mais dans le monde entier.
Oui.
Il y a certaines revendications qui sont légitimes, on comprend. Mais on parle du principe même, là. Parce que même ceux qui ont beaucoup, ils rouspètent encore, n'est-ce pas vrai? Alors, ça, c'est le comble. Ils ont tout et ils rouspètent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va plus. Ils en ont non seulement pour eux-mêmes, mais ils en ont pour des milliers d'autres. Et ils rouspètent encore.
C'est ça.
Cela veut dire qu'une vie vécue pour soi ne sera jamais satisfaite. Et n'aura jamais l'approbation de Dieu dans sa vie. Jamais. Elle exprimait cette reconnaissance. Faisons-le souvent. Alléluia. Soyons reconnaissants. Abondez en actions de grâce, il nous est dit. Abondez en actions de grâce. Une deuxième qualité, quand on a rendu grâce, alors une deuxième qualité est là. Elle avait un esprit d'amour pour le Seigneur. Elle aimait vraiment le Seigneur. Quand on rend grâce pour tout ce qu'il a fait, on ne peut que l'aimer davantage. Parce que quand vous avez rendu grâce comme cela, vous ne pouvez que finir et dire, « Mais Seigneur, tu es merveilleux. Mais Seigneur, c'est extraordinaire. J'avais oublié tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, mais je t'aime et je t'aime encore plus. » Voyez-vous, cette action de grâce nous conduit à un amour plus grand pour le Seigneur.
Amen, amen.
Pour le Seigneur. Et c'est ce qu'elle avait, elle, un esprit d'amour réel pour le Seigneur. On doit suivre le Seigneur par amour et non par intérêt. Écoutez bien cela. Elle avait le véritable esprit d'amour. C'est aimer le Seigneur pour lui-même et non pas pour ses bénédictions. Beaucoup aiment les bénédictions du Seigneur, mais le Seigneur, on le met de côté. Sa personne, ses dons, oui. Hein, ses dons, on les veut. On les veut, ses dons. Mais sa personne, non. Croyez-vous que ça pourra marcher? Non. C'est une personne qui va nous satisfaire.
Amen.
Et non pas les cadeaux qu'il nous donne.
Amen, amen.
Peut nous réjouir 5 minutes, Mais c'est sa présence qui nous comblera de joie.
Amen.
Et c'est un amour sincère pour
oui.
lui. Pas « Seigneur, je t'aime si tu m'aimes. Je t'aime si tu me bénis.
Voilà.
Je t'aime si aujourd'hui tu réponds à ma prière. » Tout cela doit être terminé de notre vie. Cet amour conditionnel, on t'aime Seigneur, mais attention, s'il pleut, alors là ça va déjà plus. Si il fait mauvais, ça va déjà plus. Si quelqu'un me fait la tête, oulala, ça va plus du tout. Quelqu'un m'abandonne, c'est terminé, oulala, alors là on ne voit plus rien du tout. Voyez-vous, notre amour pour le Seigneur est facilement influençable. Et c'est comme cela qu'on est constamment insatisfait. Et le Seigneur ne peut pas vraiment mettre son approbation sur nous. Ton amour, mon amour pour le Seigneur doit être un amour pour lui et pour lui seul. Et non pas pour ses bénédictions. Et non pas pour se sentir bien. Bien souvent j'entends, oh, on va passer des bons moments. Ça, on se sent bien. Ah bon ? Tu viens pour te sentir bien ? Si tu viens pour te sentir bien, c'est pas bon signe. On vient d'abord pour le Seigneur. Pour le glorifier, lui.
Amen. Amen.
Si tu le fais vraiment, tu te sentiras toujours bien. Mais cela ne doit pas être ta recherche. Oh, je n'ai rien senti aujourd'hui. Oh, pourquoi t'es venu ? T'es venu pour sentir quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, t'es venu pour sentir quelque chose. Ils sont toujours en train de sentir. Ah bon ? Ah bon, les chrétiens ? Ah, je sens rien ici. Oui, t'as peut-être le nez bouché. On ne vient pas pour sentir, on vient pour aimer le Seigneur. Amen. Et si tu l'aimes vraiment, le parfum sera là.
Amen. Amen.
Le parfum sera là. Le parfum sera là. Mais pour cela, il faut briser ce vase. Et nous devons ne penser qu'à lui et ne venir que pour lui et lui seul. Amen. Ça, c'est un point extrêmement important.
Amen.
Notre amour pour lui doit être un amour sans condition, uniquement pour toi, Seigneur, pour toi seul. Et que c'est merveilleux quand c'est comme ça. Car le véritable amour, c'est cela. Une relation d'amour, c'est ça. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas « je t'aime si tu me bénis, si tu fais ceci ». Non, non. Je t'aime, un point, c'est tout. Un point, c'est tout. On l'aime, c'est sa personne. Merveilleux. Alléluia. Et nous devons apprendre. Vous savez, nous pouvons être dans une réunion et Jésus peut pleurer au milieu de nous.
Eh oui.
Nous pouvons être dans une réunion et Jésus pleurer au milieu de nous. On est là, tout le monde est en train de demander des dons, tout le monde est en train de quémander, mais Jésus est là dans le coin. Il n'y a rien pour lui, pour sa personne. Lui, il passe à côté. On veut ses biens, ses bénédictions.
Ça, c'est vrai.
Et sa personne, on ne passe pas du temps. Pour lui seul. C'est du temps perdu. Voilà. Quand on ne pense qu'au Seigneur, c'est du temps perdu. Eh bien, c'est quand tu ne penses pas à lui seul que tu perds ton temps.
Amen, amen.
Et voilà pourquoi tu n'es pas satisfait.
Absolument.
Même si nous sommes dans une multitude.
Oui.
La multitude ne pourra pas satisfaire ton cœur. Ce ne sont que des émotions. Si tu es là parce que l'autre te stimule, oh, c'est merveilleux. Mes amis, c'est quoi ? Et quand l'autre n'est pas là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Mais quand on a appris à le louer, même quand on est seul ou qu'il y a peu de monde, mes amis, et qu'on l'aime de tout son cœur pour lui, la parole de Dieu dit que si l'on garde celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole et mon Père l'aimera. Jean 14, 23. C'est un beau verset, cela. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Regardez ça. Si on aime le Seigneur, donc on pense à lui, on obéit à sa parole, et il y a automatiquement un écho de la part du Père. Et mon Père l'aimera. Alors Dieu se révèle et vient manifester son amour à notre égard et nous enveloppe de son amour. Alléluia.
Amen.
Mais nous ne recherchons pas cela. Nous cherchons à l'aimer lui, mais comme l'amour est une relation, quand on l'aime de tout son cœur, lui il vient aussi répandre son amour dans notre cœur. Mais bien souvent, nous voulons sentir l'amour sans témoigner de notre amour au Seigneur. Nous faisons les choses à sens unique. Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras aujourd'hui, que tu m'aimes. Seigneur, j'ai besoin. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux passer 2 heures. Une journée, bénis-moi, j'ai besoin de sentir. C'est pas comme ça que ça marche.
C'est vrai.
Si tu veux expérimenter son amour, tu dois d'abord manifester ton amour à son égard. Et un amour pour sa personne, pour lui seul. Alléluia. Et alors là, c'est merveilleux. Nous recevons même des choses que nous n'avons jamais demandées.
Voilà.
C'est ce qui est merveilleux.
C'est vrai.
C'est ce qui est merveilleux. Le Seigneur est tellement grand, tellement bon.
C'est vrai. Hein.
Nous, on est en train de lui commander des choses comme s'il ne savait pas ce dont on a besoin. Seigneur, c'est ça, ceci, c'est ça. Pas comme ça, hein, surtout pas comme ça. C'est autrement que je veux. Ah bon? Ah bon, le Seigneur, il ne sait pas ce que tu veux? Il ne sait pas comment te le donner? Tu dois encore lui faire des dessins? On doit encore lui faire des dessins, Seigneur, comme si, comme ça, comme si. Et voilà, on est perdu dans nos dessins. On est perdu dans notre, dans nos explications. On est confus. Arrête tes dessins. Aime-le de tout ton cœur. Et tu verras. Et mon Père l'aimera.
Amen.
Que c'est beau, n'est-ce pas vrai? Et là, quand tu as vécu cela, mon ami, tu as appris une leçon extraordinaire. Une leçon que tu n'oublieras jamais, que tu ne perdras jamais. Mais cela, tu dois le faire, tu dois le comprendre, tu dois l'apprendre. Elle avait un esprit d'amour pour lui. Est-ce que vous aimez plus le Seigneur ou ses bénédictions? Plus le Seigneur ou ses dons? Le Seigneur. Voilà comment était Marie ici, le Seigneur par-dessus tout. Et il sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il dit, mais ne priez pas comme les païens qui pensent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Mais cela révèle que nous ne connaissons pas notre Père. Et on se dit, peut-être qu'il faut que je crie un peu plus parce qu'il est peut-être sourd. À entendre certains chrétiens, on a l'impression que plus on crie, plus il entendra mieux. Et on se fait tout un tas d'idées, n'est-ce pas vrai? Tout un tas d'idées sur Dieu. Non, Dieu est comme un Père, n'est-ce pas?
Amen, amen.
Et il nous faut rester dans cette simplicité d'un enfant avec son Père. Et si nous gardons cet esprit-là, vous verrez qu'il sera toujours avec vous. Et mon Père l'aimera. Mais nous ne recherchons pas ces choses. Notre but, c'est lui et lui seul. Et lui, il saura vous donner ce dont vous avez besoin.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de requêtes, pas du tout. Vous priez, bien sûr. Mais au-dessus de tout cela, il doit y avoir cette relation d'amour avec le Seigneur. D'amour pur, c'est ça. C'est ça, c'est là que le Seigneur veut purifier un peu tout ce qui est humain, tout ce qui est égoïste, orgueilleux, toutes ces mauvaises conceptions que nous avons, que nous nous sommes fabriquées, que nous avons même lues à gauche ou à droite, et qui nous perturbent. Un esprit d'amour pour le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? Il y avait une autre qualité encore, une autre qualité que le Seigneur voudrait à trouver en elle, c'était qu'elle avait appris à servir Dieu avant de servir les hommes.
Amen.
Et il y a une belle qualité là. Peut-être sans s'en rendre compte, on ne sait pas jusqu'à quel point elle comprenait elle-même, bien sûr, tout ce qu'elle faisait. Mais vous voyez, quand l'amour de Dieu est là, la sincérité est là, on peut faire des choses extraordinaires. Et le Seigneur a vu que là, il y avait une vérité importante. Que les autres disciples, Judas et les autres, ils ont pu dire aussi, il faut qu'on vende tout ça. Voyez-vous, ils ne pensaient qu'aux autres, mais elle a pensé d'abord au Seigneur. Alors une troisième qualité, avant de servir les hommes, nous devons servir le Seigneur. Car votre service pour les hommes va dépendre de votre service pour le Seigneur. C'est dans la mesure où vous vous tenez devant le Seigneur, que vous pourrez ensuite vous tenir devant les hommes.
Amen, amen.
Mais si vous vous tenez devant les hommes sans vous être tenu devant le Seigneur, c'est un gaspillage de temps.
C'est vrai.
Et tôt ou tard, ça finit par la dépression, le découragement. N'est-ce pas vrai? Et on travaille par nos propres forces. Mais elle avait compris quelque chose. Et elle a fait à mon égard quelque chose de merveilleux. Les autres étaient insensibles à cela. Ouais, personne, j'étais dur comme de la pierre. Mais lui, le Seigneur, a été profondément touché. Une leçon importante pour nous tous. Si nous voulons bien servir le Seigneur, comme notre sœur a chanté aussi dans ce chant-là,
oui,
il nous faut d'abord et avant tout prendre du temps pour le servir, lui. L'adorer, lui être reconnaissant. C'est quand on a passé du temps avec lui que les choses changent. Et alors le service, vous savez ce que c'est après le service pour les hommes? C'est tout simplement le débordement d'amour que vous avez reçu lorsque vous êtes tenu dans la présence du Seigneur.
Amen.
C'est
Amen.
Un débordement d'amour.
Amen.
Un débordement de vie que vous avez reçu Amen. Lorsque vous étiez dans la présence du Seigneur. Mm-hmm. En somme, le service, ça doit être un débordement. Un débordement Excellent. Du fait que vous avez été avec le Seigneur. Là, il vous remplit. Et ensuite, vous allez déborder sur les autres. Mais les disciples, les autres, n'avaient pas bien compris cela. Ils étaient là dans leurs petits calculs. On va faire ceci, on va faire cela. On fait beaucoup de choses. Ah, mais c'est peut-être des bonnes choses aussi. Donner aux pauvres, c'est certainement bien. Mais même pour faire une chose pareille,
oui,
il faut se tenir dans la présence de Dieu.
Oui, amen, amen.
Avec les premiers problèmes qu'il y a eu dans les Actes des Apôtres, c'était parce qu'on servait pas bien les uns et les autres comme il faut, avec les hellénistes et les hébreux, ça vous souvenez, dans Actes 6. Et ils ont dû choisir 7 hommes remplis du Saint-Esprit pour bien servir aux tables. Même pour servir aux tables, il fallait choisir des hommes remplis du Saint-Esprit. Mm-hmm. Vous vous rendez compte ? Nous, on pourrait penser, oh, c'est rien du tout. Non. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de petites tâches pour le Seigneur.
Amen.
Il n'y a pas de petites tâches. Oh, celle-là, c'est pas, personne ne le voit. Mm-hmm. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi grand-chose devant le Seigneur.
Non.
Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est grand.
Amen.
Et tout ce que nous ne faisons pas pour le Seigneur est très petit. Même si c'est grand aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est très petit. Voilà cette femme extraordinaire à mon égard. Voyez-vous, elle ne s'est pas laissée arrêter par... Hein, il ne nous est pas dit qu'elle a tendu l'oreille en disant « Oh, c'est pas gentil là, c'est pas gentil ce que vous dites. » Est-ce qu'elle a dit ça?
Non.
Sourde oreille. Vous dites ce que vous voulez. Moi, mon Sauveur, mon Dieu, c'est lui et lui seul.
Merci Seigneur.
D'abord lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta
pensée.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ah.
Mais alors quoi? Le prochain vient
après.
C'est d'abord Dieu. Voyez-vous, la conjugaison divine est différente de la conjugaison humaine.
Oui.
La conjugaison humaine dit je, tu, il. J'aime, tu aimes, il aime. Je, tu, il. Et la conjugaison divine, c'est complètement l'inverse. C'est il, tu, je. C'est il, Dieu, tu, le prochain, et toi, après. Et nous, nous avons fait je, tu, il, je. On se sert soi-même, après les autres. Et s'il reste du temps ou des miettes, c'est pour le Seigneur. Alors, c'est pas étonnant que si nous n'avons pas une bonne conjugaison, nous sommes confus dans notre langage. Et quand nous parlons, on ne nous comprend pas. Et quand vous témoignez, on ne vous comprend pas. Quand tu remplaces le « tu » par « je » ou le « je » par « il », le « je » doit être à sa place et le « il » doit être à sa place. Mais si tu mélanges le « il », « tu », « je », tout, qu'est-ce qui va se passer? Les autres seront dans la confusion. Il n'y a pas d'ordre. Tu dois le savoir. Ah oui, mais « il », « tu », « il », le Seigneur est « je », « tu », « qu'est-ce que c'est ça ?»« Il », « tu », « je », « tu », « il ». Eh oui, c'est le mélange. Il n'y a pas d'ordre.
Eh oui.
Il n'y a pas de priorité. Voilà pourquoi on est dans la confusion, pas de priorité. C'est il, tu, je. Tu viens en dernier. Parce que si tu as adoré, servi le Seigneur de tout ton cœur, et qu'ensuite, rempli, tu débordes sur ton frère, alors qui sera béni? Toi. Quand tu verras que les fleuves coulent de ton sein, toi-même tu seras là, rempli et rempli. Alléluia. Tu diras, Seigneur, c'est merveilleux. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Vous n'avez plus de temps de penser à vous. Vous êtes rempli. C'est quand vous vous oubliez vous-même que Dieu pense à vous. Mais quand vous pensez à vous, Dieu vous oublie. Quand vous pensez trop à vous, Dieu vous oublie. Et c'est quand on s'oublie que Dieu ne nous oublie pas.
Amen.
Oublie-toi et Dieu ne t'oubliera jamais.
Mm-hmm. Amen, amen.
Elle a appris à servir le Seigneur. C'est tout simple ce que je vous dis, mes amis. C'est pas compliqué. C'est tout simple. Mais laissez-moi dire une chose, c'est dans ces choses toutes simples que nous trébuchons.
Eh oui.
Et nous pensons avoir progressé dans la vie chrétienne en faisant mille et une choses, mais en négligeant les choses essentielles et de base. Nous les négligeons et nous pensons que lui, le Seigneur, il nous permet de passer par-dessus. Non, jamais. C'est un bon professeur, le Seigneur. Quand il voit qu'il y a de la négligence, il nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas aller plus haut, mais moi je veux que tu descendes plus bas d'abord. Tu vas aller un peu trop haut maintenant, parce que tu as oublié les choses de base. Et c'est pourquoi bien souvent nous nous trouvons dans des impasses. Dans des impasses, voies sans issue. On ne sait plus où aller. On est devant un mur. Ça c'est la fin, l'aboutissement d'une vie vécue pour soi-même. Voilà l'aboutissement d'une vie égoïste vécue pour soi-même. Voies sans issue. Le Seigneur n'ouvrira pas de porte à celui qui ne vit que pour lui-même. Mais oublie-toi, ne pense qu'au Seigneur, vis bien avec lui. Et une vraie relation d'amour, pas seulement ses dons, mais lui-même. Lui-même. Alors il te remplira, tu déborderas. et tu seras toi-même dans cette plénitude extraordinaire où tu ne demanderas même plus rien. Tu es là, comme un canal au travers duquel la bénédiction de Dieu coule. Dieu a fait les choses simplement, mes amis.
Oui.
Simplement. C'est nous qui compliquons les choses. Et nous pouvons être dans une multitude et être dans le désert.
C'est vrai.
Être dans le désert.
Oui.
Être dans une sécheresse. Il y a un stimulant pendant quelques instants parce qu'on est avec la foule. Mais ce n'est qu'émotionnel. Ce n'est pas spirituel. Ça ne va pas en profondeur. La preuve, c'est qu'on est toujours les mêmes. Après, il nous faut de nouveau ces émotions. On quitte tout cela, on tombe à zéro. Et il faut de nouveau ces émotions. Mes amis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous devons être non des chrétiens émotionnels, mais spirituels. Spirituels, cette relation avec Dieu, comme il le veut. Et c'est alors, nos émotions, nous en avons. Mais ces émotions ne nous contrôleront plus. Parce que beaucoup de chrétiens sont contrôlés, dominés par leurs émotions. Aujourd'hui, non, j'ai pas bien dormi, ça va pas du tout. Ils ont pris la décision, ça n'ira pas aujourd'hui. Ah, ils ont pris la décision. Ah non, ça va pas. Ben aujourd'hui, ça y est, c'est gâché. La journée est gâchée. Tout simplement parce qu'ils ont mal dormi ou qu'ils se sont pas bien réveillés. Ça va pas. Ou alors il pleut dehors. Ah non, gendarme, c'est fichu. Ah non, c'est... Moi, j'attendais le soleil, il n'y a rien du tout. C'est gâché. Ils en ont pour un jour, en tout cas. Et puis, il y en a d'autres qui se rentrent dans un tunnel qui peut durer des mois. Ils sont toujours dedans encore. Ne nous laissons pas influencer par nos sentiments, nos émotions, les circonstances. Obéir au Seigneur, faire plaisir au Seigneur ne dépend pas de tout cela. C'est une question d'obéir. Le Seigneur nous demande de le faire. Et quand il nous demande de le faire, il donne toujours la force de le faire. Quand Dieu dit « pardonnez-vous », ça veut dire qu'il nous donne la force de pardonner. Quand il nous dit « loue le Seigneur, loue l'Éternel », ça veut dire qu'il nous donne la force de le faire. Mais nous devons toujours faire le premier pas. Nous devons faire le premier pas, ne pas nous laisser lier par nos sentiments. Ah, j'ai pas envie, je peux pas. Et ça y est, c'est fini, on ne s'en sort plus. Pluie, pas pluie, beau temps, pas beau temps, sentiment, bon sentiment, pas sentiment, peu importe, j'obéis au Seigneur. Je le fais, je loue, je bénis, j'obéis, je fais ce que je dois faire parce que Dieu me le demande. Mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Combien de fois les Écritures nous disent cela? Et nous n'en tenons pas compte. Nous sommes dominés par ces sentiments, par la vue. Ah, oh, ça y est, c'est fichu. C'est fini. Ah, c'est, voilà. Et c'est comme cela que nous n'avançons pas et nous reculons. Servir le Seigneur avant de servir les autres. Amen.
Amen.
Prenez du temps, rien que pour lui, et vous verrez que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Amen. Si tu ne t'es pas tenu devant le Seigneur, tu n'as même pas le droit de te tenir devant les hommes. D'abord, lui, et ensuite, les autres, et toi, à la fin. Tu fais cela, toi-même, tu seras dans cette plénitude de joie et de satisfaction. Gloire à Dieu. Il y avait un autre état d'esprit en elle. Cette femme avait un esprit de brisement. Elle a brisé son vase d'alba. Voyez-vous, elle était brisée. Elle était brisée. La mort de son frère, les critiques, les oppositions, les persécutions, tout cela avait brisé cette femme. Mais ce brisement a eu un effet merveilleux. C'est quand le vase a été brisé que le parfum a été répandu, pas avant. Et nous aussi, nous devons considérer nos différentes épreuves, quelles qu'elles soient, comme si le Seigneur voulait briser le vase que nous sommes.
Amen.
Briser quelque chose en nous pour que ce parfum qui est en nous se répande, pour que l'image du Seigneur paraisse davantage. Mm. Car c'est dans ces moments-là difficiles,
oui,
que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. On ne s'en rend pas compte, mais c'est là qu'il travaille au plus profond de nous-mêmes. Le Seigneur utilise ses contradictions,
oui,
ses incompréhensions, mm, pour nous façonner, pour nous briser. Et en nous brisant, le parfum peut se dégager.
Amen.
On ne voit plus l'homme, on ne voit que le Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Dans beaucoup de vies, on ne voit encore que l'homme. On sent trop l'homme. Dès qu'une personne se présente, on voit, on sent l'homme. Et cela, le Seigneur veut le briser pour qu'on ne voit plus que le Seigneur et que son parfum se répand.
Mm.
N'est-ce pas merveilleux?
Amen.
Alors, que nos cœurs ne soient pas remplis d'amertume par les épreuves de la vie, les incompréhensions. Au contraire, remercions le Seigneur de ce qu'il utilise toutes ces choses pour nous façonner à son image, afin que le parfum de sa présence en nous puisse se manifester plus librement à ceux qui nous entourent, que les autres voient davantage l'image du Seigneur, et non pas tout le temps « Ah, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci ?» En disant cela, il n'y a aucun parfum qui se répand, n'est-ce pas vrai ? Il n'y a rien qui se répand. C'est l'homme lui-même, et on ne peut être en bénédiction aux autres. Mais quand l'homme est brisé, l'esprit est brisé, Seigneur, tu as permis que je passe par là, je t'en remercie. Je t'en remercie, c'est dur, mais je l'accepte. Au plus profond de nous-mêmes, le Seigneur est en train de briser tout ce qui est humain, tout ce qui est dur, récalcitrant, tout ce qui s'oppose à lui. Tu sais pourquoi il est en train de briser tout cela. Laissez-le faire, laissez-le faire. Ce n'est pas du temps perdu. Apparemment, on pense que c'est du temps perdu, c'est du temps gagné. Le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin. Et lorsque nous disons « Oui, Seigneur », alors le parfum peut se répandre. L'homme est brisé, l'esprit est brisé, l'orgueil. Il y a deux mots qui devraient résumer notre vie chrétienne. « Oui, Seigneur », deux mots. « Oui, si nous sommes dans cet esprit-là, alors le vase d'albâtre sera brisé, le parfum se répandra autour de nous. »
Le Seigneur a
gloire à ton
m'a donné une parole pour quelqu'un de bien particulier au milieu de nous. Pour un serviteur de Dieu, ici présent, éprouvé, et le Seigneur te dit, ne crains rien, mon serviteur. Si l'épreuve est venue sur toi comme un fleuve, cette épreuve ne te submergera pas. Au travers de ces eaux profondes, je serai avec toi, te dit le Seigneur. Je te porterai sur mes mains, et le feu de cette fournaise ne t'embrasera pas. Ma fidélité pour toi est un bouclier, est une cuirasse. Elle t'entoure de toutes parts. Ne crains donc rien, mon serviteur, je marche devant toi. Je t'environne de toutes parts et ma grâce te portera au travers de toute cette épreuve. Ma fidélité, te dit le Seigneur, est grande pour toi. Aujourd'hui, par ces paroles, tu ne restes pas insensible. Quand tu nous éprouves, tu nous envoies aussi des paroles de consolation. Combien souvent nous l'avons vu, Seigneur. Combien nous l'avons expérimenté. Et le Seigneur s'adresse à une autre parole prophétique pour quelqu'un ici qui a un appel pour servir le Seigneur. Il a été question dans un chant chanté au début de la réunion, de l'appel pour le servir. Et le Seigneur revient avec cette parole. Pour toi qui as un appel à le servir, voici ce que te dit le Seigneur. Je te montrerai le chemin que je t'appelle à suivre. Et ne regarde pas aux obstacles qui se dresseront sur ta route, ni à ceux qui chercheront à t'arrêter dans ton obéissance. Je suis là avec toi, te dit le Seigneur. Et si moi, je t'ouvre une porte, qui sont donc les hommes pour seulement prétendre pouvoir la fermer? Va de l'avant avec ce que je t'ai donné et donne-moi ce que les hommes estiment être si petit et moi, je le multiplierai. Je suis le Dieu de la multiplication et le Dieu de l'infini. Et quand j'ai décidé une chose, qui pourra l'arrêter, dit le Seigneur. Je te demande simplement, mon enfant, de m'obéir et moi, je ferai le reste, dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'encourager. Merci d'apaiser. Merci de consoler ceux qui sont éprouvés au milieu de nous. Seigneur, louange à toi. Et le Seigneur me montre qu'il touche aujourd'hui, ici présent, une personne qui est atteinte dans son système nerveux, gravement atteinte, et qui a besoin d'un attouchement du Seigneur. Et il te dit, je viens aujourd'hui t'arroser d'une huile fraîche et te donner la force du buffle. Seigneur, merci pour ta puissance qui maintenant traverse ce système nerveux. De la tête jusqu'aux pieds, que tout ce système soit rétabli. Au nom de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon œil est sur toi. Mon oreille a entendu tes cris. Et même plus, le moindre de tes soupirs. Je viens aujourd'hui rétablir tout ton système nerveux, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je veux te faire croître dans ma connaissance et mes voies. Je veux que tu portes plus de fruits pour ma gloire dans ma maison. Je veux me servir de toi car mon plan pour ta vie n'est pas encore à son terme. Fortifie-toi en moi et que ton cœur s'affermisse. Confie-moi ta destinée et je te conduirai sur le chemin que j'ai préparé d'avance pour toi. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de la restauration aussi ce matin. Tu as restauré nos âmes. Tu as restauré notre esprit, notre cœur. Tu restaures aussi ce système nerveux complètement. Merci Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et le Seigneur me montre qu'il touche quelqu'un qui a un dérèglement hormonal aussi. Toi aussi, le Seigneur, tu reçois un attouchement du Seigneur. Alors, prends-le, reçois-le, reçois cette guérison dans ton dérèglement hormonal, au nom de Jésus. Et une dernière personne, que le Seigneur touche, c'est quelqu'un qui a une douleur dans le bras gauche. Le Seigneur touche ton bras gauche et cette douleur s'évapore. Alléluia, parce que la main de Jésus t'a touché. Merci. Alléluia. Merci pour la douceur de ta présence, pour tous ces enseignements que tu nous as portés, Seigneur. C'est ta présence qui régénère, c'est ta présence qui vivifie, c'est ta présence qui guérit. Et nous te donnons toute la gloire, majestueux Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, merci. Nous nous effaçons devant toi et nous te laissons paraître dans toute ta beauté, toute ta grandeur, toute ta magnificence. À toi la gloire et la puissance qui te revient. Et nous, nous nous courbons dans la poussière. Et nous t'adorons, Seigneur de gloire. À toi louange, puissance, gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Et amen. Et amen.